Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Amen. Je vais vous inviter à la lecture de la parole de Dieu. La première lecture, nous la faisons dans les livres de Deutéronome, le chapitre 30. De versets 15 à 20. La deuxième lecture, nous la ferons en Romains 12, le premier et le deuxième verset. Les autres lectures, nous allons les faire pendant que nous serons en train d'avancer. Deutéronome 30, 15 à 20. Je vais conduire la parole de Dieu et conduire la lecture en français courant. Israélites, voyez, aujourd'hui je place devant vous la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur d'autre part. Prêtez donc attention au commandement que je vous communique aujourd'hui. Acceptez d'aimer le Seigneur, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace, d'obéir à ses commandements et à ses lois et à ses règles. Alors, vous pourrez vivre, vous deviendrez nombreux et le Seigneur vous comblera de bienfaits dans les pays dont vous allez prendre possession. Mais si vous vous détournez de lui, si vous lui désobéissez, si vous lui laissez entraîner, si vous vous laissez entraîner à adorer et servir d'autres dieux, vous disparaîtrez complètement. Je vous en préviens dès aujourd'hui. Vous ne resterez pas longtemps dans les pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Oui, je vous avertis solennellement, aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez-lui, restez-lui fidèlement attachés. C'est ainsi que vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. L'épître de Paul aux Romains 12, 1 à 2. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. C'est la parole de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci ce jour. Tu viens encore une fois de nous inviter dans ta présence. Nous venons de te louer et t'adorer. Nous venons, Seigneur, de te donner de nos biens et nous sommes prêts pour t'écouter. Parle-nous, Seigneur, afin que nous nous rassurions que nous sommes dans la bonne foi. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Nous avons choisi comme thème de ce jour, choisir la vie. Choisir la vie, parce que devant nous, il y a la vie et la mort. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. La parole de Dieu a dit, et Moïse qui parle, celui qui est envoyé par Dieu, il vient de donner les commandements de Dieu à son peuple, et avec ces commandements, il leur dit, je viens de mettre devant vous la vie, la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Et donc la loi de Dieu, ce que Dieu veut dans notre vie, cela a une signification, soit de la vie, soit de la mort. Et quand il dit, je mets devant vous la vie et la mort, il connaît les conséquences de la vie, il connaît aussi les conséquences de la mort. Mais malgré le fait qu'il mette devant le peuple la vie et la mort, il les exhorte. Choisis la vie, afin que tu vives longtemps. Parce que de toutes les façons, Dieu n'aimait pas la mort devant nous pour que nous puissions la choisir. Il nous conseille dans sa toute liberté. Et quand Dieu nous a créés, il nous crée à son image. Une des images, c'est la liberté. Dieu est libre, l'homme aussi est libre, mais Dieu peut nous dire, je vous conseille de choisir ceci. Pour comprendre ce que nous sommes en train de dire, nous voudrions vous rappeler ce que nous venons de suivre durant les 3 semaines qui viennent de passer. La première semaine, nous avions parlé du chrétien et les boissons alcoolisées. Et ici, nous avons compris que nous sommes tous des sacrificateurs en Jésus-Christ. Nous sommes tous des rois, des enfants de Dieu, des princes dans le royaume de Dieu, et que la Bible nous défend de prendre l'alcool en tant que sacrificateur. Le dimanche suivant, nous avions parlé de l'identité en Christ. Et le prédicateur nous avait rappelé que si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes autres choses sont devenues nouvelles. Et donc, quand nous sommes dans ce monde, nous devons savoir que nous sommes au monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si le monde nous propose ceci, nous autres, sachant notre identité, nous devons voir quelle est la volonté de Dieu. Le dimanche passé, nous avons parlé du thème intitulé « Quand les valeurs sont en miettes, quand le fondement est ébranlé, le juste, que fera-t-il ? » Si nous sommes des justes, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des disciples de Dieu, la parole de Dieu nous a appelés à la confiance à Dieu. La parole de Dieu nous a appelés à chercher, à manifester la gloire de Dieu partout où nous sommes. La parole de Dieu nous a appelés à marcher à contre-courant de ce qui se passe dans ce monde. Et donc, tu dois savoir que pour marcher avec Dieu, Quand le monde nous propose des choses où les antivaleurs sont devenues les valeurs de ce monde, la parole de Dieu nous a dit, même quand nous serons en train de penser comment nous allons vivre seuls, n'ayons pas peur, mettons notre confiance en Dieu. Cherchons à manifester la gloire de Dieu partout où nous sommes, mais aussi marcher à contre-courant. Pour comprendre notre prédication de ce jour, je l'ai subdivisée en trois petits points. Le premier point, nous allons parler de la vie chrétienne comme un sacrifice. La vie chrétienne comme un sacrifice. Le deuxième point, nous allons parler de la vie chrétienne et les interdits. La vie chrétienne et les interdits. Et notre note conclusive va nous appeler à choisir la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que lorsque nous sommes sur cette terre, Jésus avait dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa propre croix. Et donc nous devons nous joindre à Jésus, lui qui s'est sacrifié. Il n'a pas voulu être confondu à d'autres personnes de ce monde. Il a été, il a connu son identité. Il savait qui il était. Il savait qui l'a envoyé. Et il savait la mission pour laquelle il est venu sur cette terre. Et donc nous devons savoir que la miséricorde de Dieu, d'affirmation, la Bible envers les humains, malgré leur état de péché, cette miséricorde de Dieu nous appelle à une réponse d'une attitude d'offrande de soi. Et cette offrande de soi doit se manifester dans la vie de chacun, mais aussi dans la communauté ecclésiale. Et c'est là que nous avons lu Romains chapitre 12, versets 1 à 2, qui nous appelle à nous offrir comme un sacrifice vivant. Dans l'Ancien Testament, les animaux qui étaient sacrifiés pour l'absolution du péché des hommes étaient donnés comme mort. Le sacrifice, c'était un sacrifice mort parce qu'il fallait qu'on tue d'abord les animaux pour que les animaux soient mis sur l'autel. Mais Paul, au lieu de sacrifier les animaux, nous qui avons cru en Christ, nous devons maintenant nous sacrifier. Nous n'allons pas nous sacrifier étant déjà morts, parce que la Bible dit aussi. Le psaume dit que les morts, ils n'ont pas de souvenir de Dieu. Et donc, lorsque nous sommes vivants, c'est là que nous sommes appelés à nous sacrifier. Et ce sacrifice demande un culte entier, pas un culte nous dans la vie de chacun de nous, mais un culte entier. Tout ce que tu es, tout toi, doit donner ce culte à Dieu. Un des compositeurs des cantiques du recueil Nyimbo za Mungu avait dit ceci. Moyo uligeuzwa na vile maisha sa Yesu alipoingia. Et donc, lorsque Jésus entre en toi, et le cœur, et le corps, tout sont changés pour la gloire de Dieu. Et donc, nous offrir vivant à Dieu signifie que tout notre corps, tout notre être, toute notre âme, tout notre esprit doivent s'inscrire dans la logique de se soumettre entièrement à la volonté de Dieu. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, même si souvent nous parlons très mal du corps, le corps souvent nous l'imputons beaucoup de choses négatives, mais le corps que nous avons, c'est ce corps qui nous permet ou qui permet que les autres sachent que nous sommes en existence. Si nous ne sommes pas dans nos corps, les autres ne sauront pas que nous sommes en existence. C'est le corps qui nous permet de faire des actions. Si tu pêches, c'est parce que le corps a fait quelque chose qui permet qu'on dise que tu as péché. Le corps là, quand nous l'avons, nous permet d'être en relation avec Dieu et être prêt à le servir. Les autres que nous avons nous permettent d'être en bonne relation avec les autres personnes de ce monde. Si nous sommes dans ce monde, nous vivons dans ce monde et nous faisons partie de ceux-là qui sont dans le monde, c'est parce que nous avons le corps. Et donc, c'est par notre corps que nous sommes membres du corps de Christ. Et à partir du jour où nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ, nous devons savoir que le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour notre corps. Voilà pourquoi, avec le Christ, nous devons offrir notre corps en sacrifice. Ce que tu fais doit refléter le Christ qui est en toi. La manière dont ton corps se comporte doit refléter le Christ qui est en toi. Parce que vous devez savoir, comme le dit 1 Corinthiens 6, 19 à 20, que votre corps était temple du Saint-Esprit et vous ne vous appartenez plus. Et donc, vous n'êtes plus dans l'obligation de faire tout ce qui peut être demandé par ce monde. Parce que vous ne vous appartenez plus. Vous devez glorifier Dieu dans vos corps. Et quand nous glorifions Dieu dans nos corps, là, nous ferons un culte agréable, un culte logique. Et nous devons aussi savoir qu'avant que les cultes soient collectifs, les cultes sont d'abord individuels. Le culte que tu fais, le sacrifice que tu fais, ta relation avec Dieu, c'est d'abord individuel avant d'être collectif ici à l'église. C'est vrai, aujourd'hui nous sommes venus au culte, nous sommes venus adorer avec d'autres, mais ta présence ici devrait être le reflet extérieur de ton culte intérieur, ce qui est en toi et la relation que tu as avec Dieu. Et dans cette relation, comme le corps, c'est quelque chose d'important devant Dieu. C'est quelque chose qui nous permet d'entrer en relation avec les autres. Parce que si nous nous bénissons les uns les autres, c'est par le corps. Et donc, ce corps que nous avons, nous devons savoir qu'à partir de ce corps, on saura notre intégrité. À partir de ce corps, le monde saura notre fidélité en et à Dieu. Nous sommes appelés à payer le prix de la vie d'intégrité. Parce que la vie d'intégrité, c'est la conséquence de ce que nous avons reçu. Nous avons reçu de nos parents une éducation. Et après, nous avons reçu aussi de la société une éducation. Nous avons aussi reçu de l'Église une éducation. Ce que nous sommes, c'est le reflet ou le résultat de toutes ces éducations que nous recevons dans la société et dans notre vie. Alors, dans l'éducation là, ou dans notre vie de chaque jour, dans nos corps, parce que là aujourd'hui je suis en train de parler du corps, nous travaillons et nous courons même le risque. Nous sommes prêts à payer le prix. Là, je m'adresse aux parents. Nous sommes prêts à payer le prix au risque et péril de notre vie. Nous nous sacrifions pour la vie physique de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Nous nous sacrifions pour cela. Toutes les étapes que nous franchissons, partout où nous allons, tout ce que nous faisons, nous nous sacrifions pour ces choses-là. La parole de Dieu aujourd'hui nous interpelle et nous appelle aussi de faire de même pour notre propre intégrité et pour la vie spirituelle de nos conjoints, conjointes et de notre progéniture. Et dans ça, un des sacrifices dont nous allons parler ici, c'est dans le cadre des parents qui doivent être le modèle, un modèle non emporté par les choses du siècle présent. Quand on dit le siècle présent, celui qui avait écrit Romains, quand il dit siècle présent, c'était au premier siècle. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, le siècle reste présent. Et quand on dit le siècle présent, la parole de Dieu ne nous dit pas le siècle qui est là, mais ça dit chaque jour que nous appelons aujourd'hui. Tout ce que nous appelons aujourd'hui, nous devons savoir que c'est ça le siècle présent. Et nous devons aussi savoir que tout ce que nous faisons aujourd'hui ou ce que nous voyons aujourd'hui, rien n'est nouveau dans ce monde. Rien n'est nouveau dans ce monde. Tu ne seras pas vedette dans le mal que tu fais. Sache que si tu es homosexuel, l'homosexualité a été depuis la création du monde. Si tu es adultère, l'adultère a eu lieu. Donc c'est lié à la création de l'homme. Si tu es, je ne sais pas, meurtrier, d'ailleurs, le premier couple dans le jardin d'Éden, il y a eu déjà un meurtrier. Donc tu ne seras pas vedette. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si je fais ceci ou cela, je serai peut-être différent des autres. Ce que nous faisons ici, ce que nous vivons et ce que nous sommes, rien de nouveau sur cette terre. Et bien aimé dans le Seigneur, comme parents, nous devons être parents et chrétiens, sachant vivre en discipline personnelle et sachant que la vie chrétienne marche avec des interdits. Et quand nous observons ces interdits, nous sommes en train de nous sacrifier pour la gloire de Dieu. Nous sommes en train de nous sacrifier pour notre intégrité. Nous sommes en train de nous sacrifier pour notre fidélité. Nous nous sacrifions pour notre progéniture. Et donc, la liberté chrétienne dont la Bible parle, parce que la Bible aussi parle de la liberté chrétienne, ce n'est pas une liberté comme nous pouvons le croire, que c'est un libertinage. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons que la vie chrétienne, c'est un sacrifice. Dans la vie chrétienne, nous vivons des paradoxes selon lesquels, quand on dit pour que tu vives, il faut te sacrifier. Or, le sacrifice, c'est la mort. Et donc, nous avons besoin de nous sacrifier pour plaire à Dieu. Jésus, qui pour nous donner la vie, il s'est sacrifié et il a plu à Dieu qui est son Père. Deuxième point, la vie chrétienne et les interdits. Comme je venais de le dire, contrairement à ceux qui pensent que la vie chrétienne signifie libertinage, la Bible est claire quant à l'identité du vrai disciple de Christ. Nous devons savoir que l'identité que nous avons à Christ nous soustrait du reste de la vie générale de tout le monde. Là où le monde peut dire « faisons ceci », toi tu n'es pas là, tu es ailleurs parce que tu plais à Dieu. Le dimanche passé, le prédicateur nous a dit « ce n'est pas parce que tout le monde fait ceci que nous aussi nous sommes obligés de le faire ». Et donc, acceptons de faire l'exception des choses de ce monde. Nous devons accepter de faire l'exception dans ce monde ici. Comme je l'ai dit avant, étant vivant au monde, mais nous ne sommes pas du monde, nous pouvons penser que, comme la Bible dit, que le salut de Dieu nous affranchit, nous rend libres. Nous pouvons penser que nous avons la liberté en Christ et que nous sommes sauvés des lois de l'Ancien Testament Et nous sommes aussi sauvés des autres lois de la société. Détrompons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la vie en Christ, c'est une vie de privation, une vie de sacrifice, une vie où tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Une vie où tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Il y a une certaine personne qui s'appelle Jean-Luc. Quand il a cru, il a dit ceci. Il a donné cette phrase, il a dit, « Quand j'étais libre, j'étais en prison. Aujourd'hui, je suis en prison, mais libre. » Donc, nous pouvons nous sentir libres dans le péché. Et pourtant, c'est ça la vraie prison. Mais aussi, nous pouvons nous sentir être emprisonnés à Christ parce que nous avons des interdits. Et pourtant, c'est ça la vraie vie de liberté parce que ta conscience ne t'accuse de rien. Tu marches avec Christ. Tu sais que pour faire quelque chose, tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Le Saint-Esprit qui agit à toi te donne la possibilité de vivre la volonté de Dieu sans fournir d'efforts physiques. Et quand nous lisons la Bible, nous avons des interdits. Je vais citer certains interdits que nous avons dans la Bible. Par exemple, l'adultère ou la fornication, le meurtre, le vol, le faux témoignage, l'idolâtrie, la convoitise, s'adonner à l'alcool, les divorces, la haine, manque de foi ou le désespoir, c'est aussi un interdit. Le matérialisme, les suicides, quand même tu décides de mettre fin à ta vie, l'euthanasie, on te permet de mourir lentement, ça a beaucoup de problèmes. L'homosexualité. Mais si vous lisez Galates 5:21, il dit na mambo yanayofanana hayo. Mambo yanayofanana hayo, c'est par exemple fumer du chafre. Ce n'est pas explicitement écrit dans la Bible. Mais dans votre société, dans votre conscience de relation avec Dieu, vous savez que vous ne pouvez pas fumer du chavre. Na mambo yanayofanana yale. Et donc, le choix de ces choses, si nous choisissons ces choses-là, qui sont interdites, nous devons savoir que nous avons déjà choisi la mort. Et dans notre vie de chaque jour, il y a même des gens qui nous y poussent. Il y a des amis que nous pouvons avoir, la compagnie que nous pouvons avoir. Il y a aussi nos femmes et nos époux qui peuvent nous pousser dans des choses comme ça. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont heureuses d'avoir des maris sous l'art. Vous réagissez comme ça, mais vous êtes là. Vous voulez avoir des maris qui sont sous l'art, donc ceux qui boivent de l'alcool. La raison est simple, parce que Havavasumboake. Quand quelqu'un vient de prendre de l'alcool, il ne va plus raisonner comme une personne normale. Et toi, tu veux être avec celui qui ne raisonne pas parce que s'il a toutes ses capacités de réflexion, il va te déranger. Alors, pour diminuer cela, il faut lui dire, en tout cas, ouais, ouais, de tout cougnon. Et vous les autres, vous qui ne prenez pas, les femmes disent que vous leur dérangez plus que ceux qui prennent de l'alcool. Vous les dérangez. Tout ça, c'est la voie de la mort. Mais la personne là ne se rend pas compte que lorsqu'elle vous encourage, elle choisit aussi la voie de la mort. C'est la voie de la mort pourquoi? Parce que lorsque Bon, les féministes, ne me tapez pas. Donc, une femme, lorsqu'elle a cela dans sa tête, ça veut dire que c'est une femme qui n'est pas prête à être soumise à son mari. Parce qu'elle veut avoir un mari qui va accepter tout ce qui va se passer dans la maison. Et elle va devenir libre. Elle va chercher à devenir ce qu'elle veut. Elle peut faire ce qu'elle veut parce qu'il n'y a personne qui peut l'interdire quelque chose. Et la parole de Dieu est claire. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Ah! Est-ce que nous connaissons la signification de ces mots-là? Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Si Dieu peut donner un ordre et faire de cet ordre un commandement, ça veut dire que c'est difficile à cette personne-là de le faire. Pour que tu le fasses, il faut qu'on fasse de ça un commandement. Dieu sait que les hommes, il est difficile pour eux d'aimer. Les femmes, plutôt facile pour eux de se soumettre aux femmes. Et il leur dit, vous allez aimer. Et celle pour qui c'est difficile de se soumettre, mais facile d'aimer, il leur dit, soumettez-vous à vos maris. Les femmes sont prêtes à nous aimer, nous les hommes. Et quand elles nous aiment de tout le cœur. Mais nous les hommes, nous sommes capables de dire que nous aimons nos femmes. Nous nous soumettons même à ce qu'elles vont dire. Mais les actions que nous posons contre ces femmes montrent que nous ne les aimons pas. Et ça devient difficile dans la vie des chrétiens. Et donc, si je reste dans cet aspect-là de nos relations avec hommes et femmes, mari et femme, je voudrais nous défier à ce moment ici en nous posant certaines questions dans notre vie. La manière dont tu te comportes aujourd'hui chez toi à la maison, tu es un mari ou tu es une femme? La manière dont tu te comportes à la maison face à ta femme ou à ton mari ou à tes enfants, est-ce que ça reflète ta vie consacrée? Les gens avec qui tu vis à la maison peuvent-ils prier que Dieu fasse d'eux ce que tu es? Ce que tu es là, est-ce que tu peux encourager les gens de ta maison, ta femme ou ton mari, de prier Dieu qu'il te ressemble, toi? Ou peut-être, peux-tu prier que Dieu fasse de ta femme ou de ton mari ou de tes enfants ce que tu es? Peux-tu prier Dieu de donner à ton fils une femme qui va le traiter comme tu traites ton mari? Ah, ici on dit... L'air est grave. La manière dont tu traites ton mari là, et tu as un fils, tu peux aimer que cela t'arrive? Ou bien, peux-tu prier que Dieu donne à ta fille un mari qui va la traiter comme tu traites ta femme? La manière dont tu traites ta femme aujourd'hui là, et tu as une fille, peux-tu prier Dieu, que Dieu t'aide, que cette fille ici ait un mari qui va la traiter comme moi je traite ma femme? Les jeunes célibataires, peux-tu prier que Dieu te donne un foyer comme celui de tes parents aujourd'hui? Comme tu vois tes parents là, comment ils se comportent à la maison. Est-il possible que tu dises, Seigneur, épargne-moi d'autres formes de mariage, Mais amène-moi le mariage de mon père et de ma mère ici. Parents, c'est un défi. Parce que nous devons être des modèles, une vie de sacrifice et d'intégrité. Peux-tu prier que Dieu te donne des enfants qui se comporteront comme tu te comportes aujourd'hui à l'égard de tes parents? Tu es jeune aujourd'hui. La manière dont tu te comportes, est-ce que tu peux prier que Dieu te donne aussi des enfants qui se comporteront comme toi aujourd'hui? Peut-être que tu as déjà choisi la mort au lieu de choisir la vie. Notre troisième point qui parle de la conclusion de ce message. Ce message nous appelle à choisir la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, nous sommes appelés à nous décider. Nous ne devons pas dire que nous ne sommes pas informés de ce que Dieu veut que nous soyons. Ou nous ne pouvons pas dire que les commandements de Dieu sont difficiles à comprendre. Nous devons seulement nous y conformer. Nous devons seulement nous conformer de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de chacun de nous, nous sommes placés devant un simple choix. La vie ou la bénédiction, ou la mort et le mal. La vie et la bénédiction, ou la mort et le mal. La parole de Dieu, par sa miséricorde, nous invite à choisir la vie. La vie de l'amour de Dieu qui conduit à la vie, sachant que c'est Dieu qui donne la vie. Tout ce que nous faisons dans nos foyers, tout ce que nous faisons dans notre société, partout où nous allons, nous devons savoir que le péché brise les relations avec Dieu et par conséquent conduit à la mort. Le péché brise les relations envers les proches. Les proches, ce sont nos femmes, ce sont nos maris, ce sont nos enfants, et par conséquent, conduit à la mort. Savez-vous la signification du mot Yahweh? Ou la signification du mot Hawa? Yahweh, c'est être, je suis, celui qui a en lui la vie, celui qui possède la vie. Il y a le mot Hawa. Hawa, c'est Ève. Le mot Ève signifie celle qui donne la vie. Yahweh, c'est Dieu. Yahweh, c'est Dieu. Il est la vie. Et Hawa, c'est Ève, la femme, qui donne la vie. Il y a celui qui est la vie et celle qui donne la vie. Quelle relation avons-nous avec ceux qui nous donnent la vie? Ceux qui détiennent notre vie dans leurs mains, quelle relation avons-nous avec ces gens-là? Dieu veut que nous ayons une bonne relation avec lui, mais aussi avec nos prochains. Bon, ici, je vais peut-être m'adresser spécialement aux hommes mariés. Quand la Bible dit, ou bien quand la Bible donne les noms de qui donne la vie à la femme, nous devons savoir que les femmes avec lesquelles nous vivons sont source de la vie, mais aussi notre vie physique est entre leurs mains. Si la femme décide que tu vives, tu vas vivre. Si la femme décide que tu meurs, tu vas mourir et on va t'enterrer. Ces gens, nous ne devons pas jouer avec eux parce qu'ils possèdent tout ce qui entre dans notre ventre entre leurs mains. Or, nous vivons parce qu'il y a quelque chose qui entre dans nos ventres. Si tu fais mal, les femmes, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis parce que même quand nous vous faisons du mal, vous ne raisonnez jamais de nous tuer. Nous sommes toujours là. Nous sommes là. Nous sommes des erreurs. Et donc nous les hommes, maharagi tout, il suffit à la langue maharagi, à tiens mon gitu moule. Et il t'appelle, viens manger. Avec la confiance que tu as, tu viens manger. Et après, on va tout simplement dire, les médecins aussi nous disent qu'il est mort d'un arrêt cardiaque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort sans arrêt cardiaque? Nous mourons toujours avec arrêt cardiaque. Et l'histoire est terminée comme ça. Et donc, lorsque nous vivons avec nos femmes, écoutons-les. Qu'est-ce qu'elles veulent que nous soyons dans notre vie? Nous les hommes. Et donc, nous les hommes, nous devons nous rassurer que nous sommes des pères sacrificateurs de la famille. Les sacrificateurs de la famille, ceux qui doivent veiller sur le salut de leurs femmes, le salut de leurs enfants. Tu dois prier que ta femme ait réellement le salut. Parce que ta vie physique dépend de cette femme-là. Va dépendre de cette femme-là. Alors, nous les hommes qui sommes ici, est-ce que nous pouvons nous imaginer quelles sont les actions que nous posons et que nos femmes encouragent, qui vont nous amener à la vie? Quelles sont les actions que nous menons? Nos femmes ne nous encouragent pas dans ces actions, mais malgré ça, nous les faisons toujours. Vous avez besoin de raisonner et de voir si dans votre vie, vous avez choisi la vie ou vous avez choisi la mort. Dans notre vie de chaque jour, voyons aussi les compagnies que nous avons. La Bible dit, 1 Corinthiens 15, 33, que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Quels sont les types d'amis que tu as? Les types d'amis que tu as peuvent-ils t'amener vers la mort? Et comme ça, tu vas continuer avec eux tout en sachant que vous allez tout droit vers la vie ou bien vous allez tout droit vers la mort. Ce n'est pas que tout le monde fait ce que tout le monde fait, que toi aussi tu es appelé à le faire. Sache ce que tu es. Quelle est ton identité? Qui es-tu dans la société? Femmes, soyez aussi des meilleures personnes qui vont mettre les maris à l'aise pour qu'ils ne puissent pas aussi continuer à faire du mal. Vois-tu, Seigneur, m'appelle, prends ta croix. Et viens, suis-moi, je réponds, sauveur fidèle, mais voici. Nous allons nous mettre debout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. Mais solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé. Bien-aimés dans le Seigneur, à la fin de ce culte et de cette prédication, je t'invite à l'introspection de ton cœur. Le corps que Dieu t'a donné, que fais-tu de lui? Est-il ce corps qui est digne de faire un culte agréable à Dieu? Ce que tu fais faire ce corps, est-il en train de plaire à Dieu qui te l'a donné et qui t'a créé? La parole de Dieu nous appelle et nous dit que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Nous nous sacrifions pour la vie éternelle. Et pendant que nous sommes ici sur la terre, nous n'allons pas ressembler à d'autres. Et pour ne pas ressembler à d'autres, il y a des interdits. Parce que être chrétien, il faut savoir que nous ne sommes plus à mener notre vie comme les autres. Nous devons savoir qui nous sommes devant le monde et devant Dieu. Choisissons la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Choisissons la vie. Parce que Dieu nous a appelés à la vie. Ne t'amène pas expressément à la mort. Oui, nous sommes appelés à vivre ensemble, mari, femme et enfant, et les membres de la société. Que personne ne soit l'objet de chute de l'autre. Que le mari puisse encourager sa femme. Que la femme puisse encourager le mari. Que les enfants encouragent les parents. Que les parents encouragent les enfants pour choisir la vie. Ne nous encourageons pas dans de mauvaises choses, mais encourageons-nous dans la vie. Éternel notre Dieu, Éternel Tout-Puissant, tu es notre Dieu, c'est Dieu qui nous a sauvés. Tu t'es sacrifié pour nous, afin que nous ayons la vie. Et après, tu nous as dit aussi de nous sacrifier, afin que nous puissions te rendre un culte agréable. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu viens de nous parler. Merci pour mon frère et ma sœur. Merci pour toute personne qui a été présente ici, Seigneur, dans ce culte. Tu es l'enseignant par excellence. Et toi qui sais, sonder les cœurs de chacun de nous. Construis nos foyers, Seigneur. Construis nos ménages, construis les relations qui sont brisées, Seigneur, parce qu'il y a eu ceci ou cela. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas su son rôle, qui n'a pas su ce qu'il devait faire, et la relation s'est brisée. Seigneur, nous implorons ta présence dans toutes les relations qui ont été brisées, afin que ces relations soient restaurées. Nous prions, Seigneur, que la vie règne dans nos familles, que la vie règne dans l'Église, que la vie règne dans la société. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Tes enfants sont venus aujourd'hui t'écouter. Ils sont venus te louer et t'adorer. Et nous croyons, Seigneur, que tu viens de planter quelque chose dans les cœurs de chacun d'eux. et que personne ne dira qu'il est sorti d'ici sans rien prendre. Merci Seigneur notre Dieu. Maintenant nous sommes à la fin de ce culte. Seigneur, tu as été avec nous lorsque nous venions et nous voulons emprunter le chemin de retour. Nous avons encore confiance à toi parce que c'est toi qui vas encore diriger nos pas. Dirige les pas de chacun de nous. Ainsi aussi bénis toute personne en ces lieux, toute personne qui a été présente ici physiquement, toute personne qui nous a suivis en ligne, Seigneur, que tu sois la bénédiction, les sujets de son allégresse, Seigneur notre Dieu. Sois élevé dans nos différentes activités de la semaine. Que tes enfants te rencontrent dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Oui, Seigneur, ne permets pas que le mal puisse être victorieux sur le bien, mais permets que le bien soit victorieux. Et permets que tes enfants, dans toutes les activités qu'ils font, qu'ils soient ceux-là qui vont bénéficier de beaucoup de choses dans leur vie, Seigneur. Et qu'ils viennent aussi te dire merci parce que tu as été avec eux. Tu as été avec eux, Seigneur. Que tu guérisses nos malades, Seigneur. Que tu sois avec eux sur les lits de l'hôpital et même à la maison. Et nous te bénissons pour ceux-là qui sont guéris. Nous te glorifions, Seigneur. Continue, Seigneur, à garder la ville. Et que chacun de nous, partout où il se déplace, qu'il se trouve dans la paix qui vient de toi. Gloire et honneur te soient rendus pour des siècles et des siècles. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient le partage de chacun de nous, dès maintenant et à jamais, car nous te prions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Beau dimanche.